Voilà, bonjour à tout un chacun. Quelle joie et privilège de partager ce moment avec vous ce matin, accompagné de mon épouse, Viviane, qui est là, et mes deux filles que je fais grâce de ne pas venir parce qu'elles ont leurs copines à notre église et elles n'avaient pas trop envie de venir ce matin. Bon, comme je les ai traînées un peu partout souvent quand je suis en déplacement, je leur ai donné cette permission de rester dans leur église ce matin. En tout cas, nous sommes contents de partager ce moment avec vous. Depuis un certain temps, notre frère Samuel Cabot aide beaucoup notre église locale, surtout quand il n'y avait pas de pasteur. Et même quand je suis arrivé aussi, souvent il a été sollicité pour partager la parole. D'ailleurs, nous sommes tous deux, on pourrait dire réfugiés théologiques, nous sommes appelés à partager la parole avec des personnes qui sont étrangères, en tout cas à notre culture, en tout cas pour moi personnellement, bien sûr. Et nous avons la possibilité de nous retrouver tous les mercredis ensemble pour passer un temps dans la prière, pour que le Seigneur nous accorde cette sagesse, ce discernement, de savoir comment transmettre cette parole à des amis, des frères et sœurs en Christ, qui sont, je dirais, de culture, différente de nous. Et puis nous prions aussi. Voilà, nous avons un lien particulier dans la prière et nous prions aussi pour nos deux communautés. Voilà ce que je peux dire ce matin avant de partager la parole avec vous. J'étais agréablement surpris ce matin et vraiment d'entendre que notre sœur a lu ce matin Exode chapitre 15. Et c'est dans ce chapitre que se trouve un peu le texte de ma prédication de ce matin. J'étais surpris quand même parce que voilà, elle a choisi. Bon. Elle n'a pas lu exactement le paragraphe sur lequel là, je vais partager avec vous ce matin, mais c'était quand même extraordinaire parce que je ferai allusion quand même avec quelques éléments qui ont été déjà lus. Alors, nous entendons souvent ces phrases. La vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie est un chemin semé d'embûches. La vie est faite de haut et de bas. La vie est un océan, parfois calme, parfois déchaîné. Personnellement, je n'ai pas cherché à savoir de qui elles sont ces phrases. Mais tout naturellement, il m'est déjà arrivé moi-même de les répéter comme si c'était un enseignement que j'avais reçu dès mon plus jeune âge. J'ai même envie de dire ce matin, qui parmi vous n'a jamais évoqué cette phrase ou dit quelque chose proche de cette phrase ? Même celles et ceux qui disent souvent qu'avec Jésus tout va bien, ils ont quand même déjà répété cette phrase. Quand quelqu'un vit une situation difficile, croyant ou non croyant, il se rend compte facilement que vraiment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vraiment, la vie est un océan parfois calme, parfois déchaîné. Oui, les circonstances de la vie nous montrent que cette phrase est vraiment une vérité, pardon pour le pléronasme. Mais cette vérité aussi, elle est valable pour la vie chrétienne. Il faut seulement considérer le parcours de certains personnages de la Bible, le parcours des premiers chrétiens de l'histoire de l'Église. Et je dirais même la vie de chaque chrétien en particulier, pour qu'on se rende compte vraiment, c'est une réalité. La vie chrétienne n'est pas si simple que ça. La vie de chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu n'affiche pas le contraire de la réalité de cette phrase. La trajectoire que chaque chrétien emprunte avec Dieu n'est jamais quelque chose de simple et facile. Non, Dieu ne nous appelle pas à le suivre dans un chemin semé de roses, de lauriers. Qu'ils soient des hommes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, qu'ils soient des pères de l'Église ou des simples croyants. Peut-être que ça nous est déjà arrivé de chanter ce cantique. Le chemin du calvaire est un chemin étroit et périlleux. Un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Un chemin quelquefois qui nous demande de quitter ce qu'on aime, d'endurer l'injure, d'arriver même à perdre sa propre vie. Bref, un chemin pas trop facile. Nous trouvons particulièrement un homme dans l'Ancien Testament qui a fait un long parcours avec Dieu depuis son appel. En Exode chapitre 3, jusqu'à sa dernière intervention auprès du peuple d'Israël, en Deutéronome 33, où cet homme qui s'appelle Moïse, il a prononcé quelques paroles de bénédiction. Un homme exceptionnel devant Dieu. un homme qui a eu un, je dirais, un lien privilégié avec Dieu, Moïse. En Nombre chapitre 12, 7, 8, l'Éternel dit, et je cite, « Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme. » Nombre chapitre 12, 7. Pourtant, la trajectoire de la vie de cet homme n'était pas une trajectoire simple et facile. Ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est qu'au travers de son attitude, de sa vie, cet homme nous a laissé des leçons très importantes pour notre vie chrétienne. Des leçons qui peuvent nous aider à faire face à certaines réalités compliquées de la vie. Et j'aimerais considérer quelques-unes de ces leçons dans ce paragraphe que je vais vous inviter à lire dans Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Et j'espère vraiment que ces leçons pourront nous aider à avancer dans notre relation avec le Seigneur. Et ces importantes leçons, je les ai soulignées dans le 25e verset du chapitre 15. Quand nous vivons la réalité de cette phrase, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand nous sommes acculés par les difficultés de la vie, par les difficultés de l'église, de la famille, avec les enfants, quand enfin les souffrances s'installent parmi nous, Moïse nous propose trois attitudes à adopter. Implorer, écouter, obéir. En tout cas, lisons ces quelques versets. Moïse fit partie d'Israël de la mer des roseaux et il prit la direction du désert de Chour. Après trois jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et c'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Mais que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Moïse avec le peuple d'Israël viennent de vivre un moment merveilleux dans leur parcours avec Dieu. C'est bien la manifestation de la toute-puissance de Dieu devant celle de Pharaon et la traversée de la mer Rouge. C'est à ce spectacle que le peuple vient d'assister. Au chapitre 14 de ce même livre, au verset 31, nous lisons ces paroles. « Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en Dieu et en Moïse, serviteur de Dieu. » Vous imaginez qu'un leader à la tête d'un peuple vient de vivre une telle réalité, et le peuple déclare « Nous avons confiance en Dieu et confiance en ce serviteur de Dieu. » J'aurais aimé vivre cette situation. Et Moïse lui-même a décidé, avec le peuple, de rédiger sous la forme de cantique l'exploit qu'ils viennent de vivre avec Dieu. Ce cantique a été lu en Exode chapitre 15 il y a quelques instants. Et les paroles de ce cantique doivent être entonnées par le peuple d'Israël. Mais quelques temps après, ce décor va être transformé. Nous avons l'impression ici, suite ce que nous venons de lire, qu'un diagnostic dur et triste vient d'être tombé pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël et Moïse se trouvent dans le désert et ils ont eu profondément soif. Je n'ai pas encore fait la marche, moi, dans le désert, mais je peux quand même imaginer la soif d'un peuple, la soif d'eau d'un peuple dans le désert. Et j'ai eu l'occasion quand même d'expérimenter la soif d'eau. Je peux comprendre qu'on peut jeûner longtemps sans manger, mais pas trop longtemps sans boire, me semble-t-il. Je ne suis pas médecin, mais bon, il me semble que les médecins peuvent le dire. après cette traversée de la mer Rouge, qui n'est qu'une étape dans leur parcours, ils vont passer à une nouvelle étape. Soif d'eau dans le désert. Le texte nous dit que Moïse donne l'ordre au peuple d'Israël de quitter la mer des roseaux et de prendre la direction du désert de Chaux. Tout se passe très bien jusque-là. Le peuple fait confiance à Moïse, confiance en l'Éternel. Le peuple suit Moïse. Notons en passant qu'ils étaient environ 600 000, sans compter les femmes et les enfants. Rapidement, la foule va faire face à ces deux obstacles. 3 jours de marche, ils n'ont pas trouvé de point d'eau, et quand ils ont trouvé un, l'eau était amère. Le peuple commence à se plaindre. Et dans d'autres versions, il est écrit que le peuple murmura contre Moïse. Bon, le peuple n'avait qu'un problème, ils avaient soif. Mais Moïse, le problème était double. Lui aussi, il avait non seulement soif, mais 600 000 personnes qui murmuraient. Bon, je dirais 599 999 sans Moïse. Une nation qui vient juste de dire « J'ai eu confiance en l'Éternel, j'ai eu confiance en Moïse. » Et là, le peuple commence à se plaindre contre lui, comme quoi c'est sa faute. Oui, si le peuple avait seulement demandé de l'eau à Moïse, ce ne serait pas trop difficile. Mais 599 personnes murmurer contre toi. Je pense que c'est assez suffisant pour nous faire toucher la dépression, en tout cas pour un leader. J'étais dans une petite église d'une vingtaine de personnes dans le 45 quand je venais d'arriver. J'ai déjà expérimenté un groupe de croyants qui murmuraient pour telle ou telle raison. Enfin, c'est compliqué. Mais 600 000, c'est chaud. Mais ce qui est intéressant de souligner ce matin, c'est l'attitude affichée par Moïse devant une telle situation. Vous n'avez peut-être pas une foule qui murmurait contre vous. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez de comme situation difficile et compliquée. Qu'est-ce que vous vivez dans l'église, dans la famille ou avec les enfants? Quelle attitude affichons-nous quand nous devons faire face à des situations difficiles et compliquées dans notre vie? Souvent, dépendant du pays où on se trouve, nous avons le choix entre appeler la police, la gendarmerie, les pompiers, le médecin traitant, un ami proche, un collègue de travail, un membre de la famille. Je ne sais pas si Moïse avait cette possibilité, ces différentes possibilités. Dans ce verset 25 du chapitre 15, Moïse a affiché 3 petites attitudes. Implorer, écouter, obéir. Et ce qui est intéressant, la suite, le dénouement est quand même positif. Nous lisons, l'eau devient douce à la fin du texte. Première attitude, Moïse implora l'Éternel. Dans l'autre version, il est écrit, Moïse cria à l'Éternel. Ce mot implorer signifie supplier d'une manière humble et touchante, ou demander avec insistance. Moïse a cherché à toucher le cœur de Dieu. Telle fut l'attitude adoptée par Moïse face au murmure du peuple d'Israël devant cette source d'eau amère. Implorer Dieu pour Moïse signifie qu'il est limité et qu'il reconnaît sa limite, sa petitesse. Il doit implorer le secours d'en haut. Implorer Dieu signifie pour Moïse qu'il reconnaît que tout autre soutien ou toute autre stratégie sera vouée à l'échec, si ce n'est de chercher le recours d'en haut. En scrutant le parcours de Moïse avec le peuple d'Israël, on comprend que c'était une attitude familière quand même dans la vie de Moïse. Voilà une âme offensive et défensive. Toujours employé par Moïse, serviteur de l'Éternel. Je ne sais pas si vous me permettez de vous encourager, ou de vous exhorter, ou de vous dire, voilà l'attitude que nous pouvons essayer d'adopter, que nous devons faire face à des situations difficiles. Oui, souvent, nous entendons cette petite voix qui nous dit, mais à quoi ça sert d'implorer? Alors que Dieu sait exactement, mieux que nous-mêmes, ce que nous en avons besoin. Ou bien, écoutez, pourquoi prier? Alors que Dieu, il le sait. Peut-être quelquefois, on s'éloigne de cette option. Peut-être dans le cas de Moïse, pour dire on va faire appel à des chimistes de l'église ou bien des docteurs en pharmacie pour voir dans quelle mesure on peut transformer ces molécules d'eau amère en molécules d'eau douce. C'est peut-être possible avec la science. Moïse ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'il avait cette possibilité à l'époque, s'il y avait des pharmaciens ou des docteurs en pharmacie ou bien des chimistes bien avancés pour pouvoir réfléchir à ce niveau-là. Mais il a imploré l'Éternel. Et c'est incroyable dans la Bible le nombre de fois où l'Éternel nous demande de demander. Invoquez-moi au jour de votre détresse. Priez sans cesse. Demandez et vous recevez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Veuillez prier, approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce. Pourquoi ne pas implorer quand la persécution frappe à notre porte, quand notre ciel bleu est devenu tout noir, alors que c'est Dieu qui nous demande d'implorer. Il faut le noter, je n'ai pas la prétention ni l'intention de vous annoncer quelque chose de nouvel ce matin, mais je vais juste vous rappeler que nous avons un Dieu présent qui attend que nous l'implorions quand nous vivons des moments difficiles. J'ai juste envie de vous poser cette question. Est-ce que nous avons ce premier réflexe? Ayons-nous ce premier réflexe? J'aime bien ce cantique parce que j'aime bien chanter, je chante beaucoup, je vois quelquefois, même des textes bibliques ne restent pas, mais les cantiques restent. Quand la misère, l'épreuve amère sont la part, Seigneur, de ton enfant, que puis-je faire sur ce chemin si sombre et glissant? L'auteur répond en anglais, tell unto Jesus, dis tout à Jésus. Quand la sainte flamme de l'esprit s'éteint, implorons. Quand la faiblesse et la tristesse nous voilent la face de Jésus, implorons. Quand tout va mal, implorons. Et si Dieu nous le demande, c'est qu'il sait que notre réconfort se trouve dans la prière. Moïse avait eu assez pour être paniqué avec ces milliers de personnes qui murmurent contre lui. Il a choisi cette option qui est d'implorer le secours d'en haut. Je vous rappelle encore que ce grand Dieu parcourt toute la terre de son regard pour bénir ceux qui se tournent vers lui dans la prière. Vous êtes-vous devant une source d'eau amère? Vivez-vous une situation difficile et compliquée? Vivez-vous une situation difficile dans la vie de couple, dans la famille, avec les enfants, dans le travail ou ailleurs? Pourquoi ne pas implorer le secours d'en haut? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie de prière, dans cette communauté, je peux parler que à l'est là où je suis. Mais souvent, le temps de prière, c'est peut-être le parent pauvre dans des églises. Je ne sais pas, je me tais parce que je ne connais pas cette communauté. Mais en tout cas, j'aimerais nous encourager à progresser quand les choses ne vont pas bien dans notre communauté, quand les choses ne vont pas bien dans notre vie de famille, quand les choses ne vont pas bien au travail. Implorer. L'ennemi tremble devant un peuple à genoux, devant Dieu. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas pour me mettre en avant, mais je pense que c'est quelque chose qui tient bien avec... Avant de me lancer dans le ministère pastoral, j'étais assistant comptable dans une entreprise. Et j'avais une collègue où c'était très compliqué, c'était très difficile. Même un jeudi matin, je me suis réveillé, je ne pouvais pas aller travailler. J'étais stressé, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête. J'ai appelé, je me dis, je ne pouvais pas venir. Et c'est, je ne peux pas. Et ce jeudi où je suis resté à la maison, j'ai passé un bon temps dans la journée. Seigneur, aide-moi à supporter cette collègue, à l'accepter telle qu'elle l'est. Et ou bien, Seigneur, trouvez-moi quelque chose d'autre parce que je ne peux pas continuer comme ça. À la fin de la journée, de ce jeudi, j'avais l'impression que le Seigneur m'a donné la force de supporter cette personne. Et le vendredi, je suis arrivé au travail. Et hop, alors je cite son prénom. Bon, s'il y a des Magali, c'est pas que j'ai quelque chose contre les Magali. Mais ça s'appelait Magali. Je suis arrivé ce vendredi, Magali n'était pas là. Enfin, moi, je cherche à savoir, mais pourquoi Magali n'était pas là? Parce que voilà, j'étais peut-être prêt à l'accepter, à la supporter. Et hop, on m'a donné des nouvelles. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Magali et la chef, l'autre chef. Et Magali s'est mis en arrêt de maladie. Et Magali a passé 9 mois sans mettre les pieds au travail. Et les 9 mois, c'est les 9 mois moi, que je devais travailler avant de trouver un ministère pastoral. Vous savez, mes collègues m'ont appelé Haïti parce que je suis haïtien. Pour eux, le fait de rester à la maison, je faisais de la magie pour pousser Magali à sortir de travail. Voilà. Mais en tout cas, je sais que ce jour-là, je vais passer du temps dans la prière, mais je n'avais pas demandé à Dieu de l'éloigner Magali du travail. Mais bon, c'est ce que j'ai eu comme réponse. Devant l'eau amère, le chrétien peut avoir plusieurs options, mais la première est d'implorer Dieu. Adoptant ce premier réflexe comme Moïse lui-même a fait. Alors, une fois que Moïse a imploré, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième réflexe, je dirais, écoutez Dieu. Nous lisons au verset 25 que l'Éternel indiqua à Moïse une broie d'une certaine espèce. Je peux comprendre que j'ai 30 minutes, hein? Je surveille. Après avoir imploré l'Éternel, Moïse maintenant doit rester à l'écoute de son Seigneur, car ce Dieu va bouger, il va parler, il va agir. Moïse va devoir rester vigilant et sensible, parce que notre Dieu n'est pas celui qui va oublier notre dossier au fond de l'armoire. Il n'est pas celui, quand tu lui dis quelque chose, ça rentre dans une oreille et ça sort. C'est bien cette deuxième attitude que nous devons avoir face à une situation difficile et compliquée. Une fois imploré, restez à l'écoute de l'Éternel. Alors, si Moïse doit écouter, c'est parce que notre Dieu est son... Notre Dieu et le Dieu de Moïse est un Dieu qui parle et qui agit. Et selon ce que nous venons de lire là dans Exode 15, le verset 25, cette phrase le confirme. Une fois imploré, l'Éternel répond en lui indiquant un bois d'une certaine espèce. Est-ce par signe ou par la parole? Je ne sais pas, mais Dieu a réagi. Il a donné des directives. Dieu parle. La parole de Dieu le dit, le confirme. Notre Dieu parle. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sur quelle manière, je ne sais pas, mais il va réagir. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'être attentif, parce que Dieu va parler. Dans le psaume 115, versets 3 à 7, le psalmiste veut quand même montrer que notre Dieu qui est au ciel est différent des idoles, mais leurs idoles d'argent et d'or sont faites par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler, elles ont bien des yeux. Mais elles ne voient pas, elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Mais notre Dieu parle. Invoquez-moi et je vous répondrai. Et je crois que cette vérité doit nous motiver aussi à implorer, parce que nous n'allons pas nous adresser à quelqu'un qui serait passif à ce que nous lui disons. Restons à l'écoute de la voix de Dieu. Pour s'adresser au peuple d'Israël, Les prophètes n'hésitaient pas à dire à ce peuple, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, Israël, Éternel notre Dieu, l'Éternel est grand et roi. Si la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, nous avons besoin d'avoir une relation avec un Père à qui nous pouvons adresser nos requêtes et qui peut nous répondre, et nous devons rester à son écoute. Juste avoir une relation avec le Père, parce que quelquefois nous avons du mal à comprendre la voix de ce Père qui nous parle. S'il n'y a pas cette relation avec le Père, quelquefois il nous parle, mais est-ce que c'est vraiment lui? Les brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je ne veux pas rentrer dans les détails comment Dieu parle maintenant. En Hébreux chapitre 1, 2, Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils ou par d'autres personnes que Dieu pourrait placer sur notre route. Le risque dans un tel cas, c'est de ne pas faire cas à ces personnes qui nous parlent ou à la façon que Dieu nous parle. Quelquefois, il nous parle par la bouche des enfants, par la bouche des serviteurs et des servantes. Et même quelquefois, par la bouche d'un animal. L'histoire de Balaam et Balak. Moïse a imploré Dieu. Dieu lui a parlé en réponse à sa prière. Il a compris parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Obéissance, merci. Toujours dans le verset 25. Un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau. C'est bien l'action d'obéissance qu'il jeta dans l'eau. L'obéissance, voilà une attitude et un comportement qui est très important pour tous les chrétiens. Et pendant notre parcours sur cette terre, nous avons besoin d'obéir à Dieu constamment. C'est l'une des preuves qui montre qu'on est vraiment un enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre « Le prix de la grâce » écrit par ce théologien allemand, Bonhoeffer, qui disait, je cite, « Seul celui qui croit obéit, seul celui qui obéit croit. » Dans un article publié récemment, et quand je dis récemment, vraiment très récemment, le 30 avril, par un de vos pasteurs, que vous connaissez très très bien, dans The Gospel Coalition, Évangile 21, Charles Nicolas, qui a écrit un article sur la prière a-t-elle des limites? Et le deuxième paragraphe, il a dit, ben j'ai lu l'article hier soir, parce que, enfin, je vous encourage à regarder régulièrement toute la semaine Évangile 21, parce qu'il y a de très beaux articles, là, c'est intéressant. Et deuxième partie de l'article qu'il a écrit, l'obéissance est la plus belle prière. Vous savez, les exhortations faites aux enfants de Dieu par rapport à l'obéissance sont multiples dans la Bible. Dans ce chapitre 15, après cette expérience de Moïse avec Dieu, Dieu dit aux enfants d'Israël, « Si vous écoutez attentivement l'Éternel, si vous obéissez, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous apporte la guérison. » Le nombre de fois que l'exhortation à l'obéissance est faite au peuple d'Israël est nombreux dans la Bible. Vous savez, souvent nous n'avons pas de mal à implorer. Peut-être moins de mal aussi à écouter. Mais donne-moi le premier. J'ai plus de mal à obéir. J'entends, mais j'ai du mal à obéir. Mes chers amis, obéissons à la voix de Dieu. L'attitude de Moïse ici crie très haut. Gare au rationalisme, gare au scepticisme, gare au modernisme, qui veulent toujours trouver une explication. Souvent, nous ne pouvons pas obéir parce que nous posons trop de questions. Nous cherchons trop à comprendre, alors que Dieu réclame seulement l'obéissance. Je vois bien les croyants du 21e siècle qui prendraient bien le temps pour poser des questions au sujet d'un petit bout de bois dans l'eau.
Qu'est-ce que ça peut faire, ça?
Mais Moïse ne demande pas, est-ce que ce petit bout de bois peut transformer l'eau? Quelles sont, je dirais, les propriétés d'un bout de bois pour transformer l'eau amère en eau douce? Ça, c'est la question des rationalismes d'aujourd'hui, des modernismes d'aujourd'hui. Pardon? Ah, bon, c'est... Pas vous prendre comme des enfants ce matin, mais j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de poser de questions, mais obéissez à Dieu. L'obéissance est l'expression de notre confiance en Dieu. Quelquefois, même Dieu nous demande de nous approcher vers lui comme un enfant. Oui, qu'on ne fait pas confiance, on a du mal à obéir. Et si j'obéis sans poser de questions, c'est bien parce que je fais confiance pleinement à celui qui me parle. Et je connais cette personne. Une petite histoire. Il y avait une prise d'otage dans la région parisienne, dans une école. Le preneur d'otage a décidé en quelques instants de libérer un enfant. Parce que c'était dans les échanges, oui, dans la négociation. Et le preneur d'otage a dit, et toi, cet enfant-là, tu vas sortir. L'enfant, au lieu de sortir, il a dit, ah non, maman m'avait dit, si ce n'est pas tata, si ce n'est pas papa, je ne dois pas sortir. C'est ce que l'enfant a répondu au preneur d'otage. C'est une obéissance naïve pour cet enfant. Et quelquefois, nous avons besoin d'obéir naïvement devant Dieu. Il lui dit quelque chose, je le fais, c'est tout. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, implorer, écouter, obéir. Et donc, quel est donc le résultat dans le texte? Je l'ai déjà dit, l'eau devient douce. Une fois imploré, écouter, obéir, et voilà le résultat, l'eau devient potable. Je pose la question, Dieu avait-il besoin de tous ces éléments pour rendre potable l'eau de Marah? Je reviens encore, quelles sont vraiment les qualités de ce bout de bois pour rendre une eau potable? Nous savons bien qu'il n'y avait pas vraiment à cette époque une technologie de pointe qui permettrait de transformer l'eau amère en eau douce. Aujourd'hui, je crois que les hommes de science auraient pu faire quelque chose et peut-être pourraient bien agir sur les molécules d'eau. Mais à l'époque, non. À l'époque de Moïse, ce n'était pas possible. La transformation de l'eau amère en eau douce ne pourrait pas être expliquée avec des éventuelles propriétés de ce bout de bois. Mais dans la toute-puissance de Dieu, et aussi après, dans l'obéissance de Moïse. La vie en général n'est pas un long fleuve tranquille, et encore la vie chrétienne n'est pas une voie parsemée de roses. Moïse nous apprend ce matin quelques attitudes simples et élémentaires que nous devons avoir quand nous vivons les bas de la vie. Implorer Dieu, rester à l'écoute de Dieu, obéir à Dieu. Nous avons vu le résultat que l'eau amère est devenue potable et le peuple a pu trouver de l'eau à boire. Êtes-vous dans une situation où vous avez besoin d'une sorte de transformation d'une eau amère en eau douce? Implorez le secours d'en haut, car le Dieu de Moïse ne change pas aujourd'hui, il est le même hier éternellement, il ne change pas. S'il avait changé l'eau amère de Moïse, qu'est-ce qui l'empêchera aujourd'hui, ce matin, de changer l'eau amère de Georges? Si Georges l'implore, si Georges l'écoute, si Georges l'obéit. Qui que vous soyez, où que vous soyez, osons
implorer cet homme qui a le pouvoir de changer les choses. Osons rester à son écoute, osons obéir.
Mais vous savez, c'est jamais simple, c'est jamais facile.
Mais là encore, nous avons l'aide de l'Esprit pour nous aider à poursuivre le chemin avec lui. Parce que nous pouvons garder, notre Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons nous approcher vers lui. Il est prêt à nous parler. Il est prêt à nous répondre. Il nous demande juste de l'obéir. En tout cas, nous lui demandons sa force, son aide, pour qu'il puisse nous aider dans ce chemin, à continuer à l'écouter, à l'implorer et à lui obéir.